Imaginez-vous un soir d'août, il fait chaud, la nuit est belle et vous êtes venu profiter de la fraîcheur nocturne sous les platanes du canal du Midi. C'est d'ailleurs peut-être exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes là, à observer le reflet de la lune dans l'eau, quand soudain votre regard est attiré par une ombre furtive. Près du lampadaire, là-bas, on dirait un oiseau, en plus rapide, plus silencieux.
Et si c'est un fantôme, une âme errant dans la nuit toulousaine ?
Pas de panique. Ce n'est qu'une chauve-souris. Vous venez en quelques instants de renouer avec des siècles de superstitions et de croyances autour de cet animal. Faut dire qu'il a tout pour plaire, ce chiroptère. Oui, c'est le nom scientifique de sa famille. Une tête de rongeur, un corps couvert de fourrure et pourtant des ailes, des plumées, avec des griffes au bout. On n'est pas loin d'une figure de monstre mythologique, chimère ou manticore. Et ce n'est pas le naturaliste Buffon qui nuancera le propos, lui qui l'a classé parmi les animaux
« qui nous paraissent hideux, ceux dont la qualité nous sont nuisibles, ceux dont la nature s'éloigne de la nature commune. »
En plus, elle dort la tête en bas et circule sans problème la nuit, dans cette obscurité qui a toujours fait peur à la culture occidentale et à sa lumière chrétienne. Depuis l'Antiquité, on associe la chauve-souris à la mort et aux esprits maudits. Dans la Bible, elle fait partie des animaux impurs, impropres à la consommation. Au Moyen-Âge, le diable est fréquemment représenté pourvu de ses ailes. On la cloue aux portes ou on l'emmure vivante à la construction des maisons pour lutter contre les démons. On craint qu'elle ne se prenne dans les cheveux, ce qui entraînerait la calvitie.
D'ailleurs, au Tyrol, quiconque voyait sa tête effleurée par une chauve-souris devait se tondre illico le crâne et était sûr de rester célibataire toute sa vie.
Comme le mystère de son déplacement dans le noir alimente les fantasmes, de nombreuses croyances qui lui sont associées portent sur la vue. Un jet d'urine dans les yeux vous rendrait ainsi irrémédiablement aveugle. Le Romain Pline l'Ancien lui prête de nombreuses vertus médicinales. Son sang soignerait les problèmes ophtalmiques et donnerait une vision nyctalope. Son cerveau broyé et bouilli ferait un excellent collyre. Mieux encore, porter un de ses yeux sur soi assurerait l'invisibilité. La découverte au XIXe siècle des chauves-souris hématophages qui se nourrissent de sang et qu'on a vite appelé vampires n'a rien arrangé. Alors que sur les 1400 espèces de chauves-souris, seules 3 sont hématophages et vivent dans les zones tropicales d'Amérique du Sud, toute la famille s'est vue traitée de vampires. Ah oui, j'oubliais, chauve-souris ce n'est pas une espèce, c'est une famille. Et une grande famille, puisqu'elle rassemble un quart des mammifères terrestres connus. À part les 3 hématophages, les autres sont principalement frugivores ou insectivores, comme les 35 espèces observables en France. D'ailleurs, laquelle est-ce celle qu'on voit ici ? Pas évident de reconnaître une chauve-souris en vol dans l'obscurité. À Toulouse, on observe de manière régulière 5 espèces différentes. Le murin de Daubenton, la noctule commune et 3 espèces de pipistrelles. La pipistrelle pygmée, la pipistrelle de cul et la pipistrelle commune, la plus répandue. C'est probablement elle qui volette par ici. La nuit, au-dessus du canal du Midi, elle s'adonne à une de ses activités préférées, la chasse. On la retrouve souvent au-dessus de l'eau, en lisière des arbres, parce que c'est là que se situent les nuages d'insectes qui lui servent de repas. Comme c'est une des rares chauves-souris qui ne fuit pas la lumière, elle apprécie aussi beaucoup les lampadaires, véritable garde-manger. La pipistrelle peut manger entre 2000 et 3000 insectes par nuit. Mais comment fait-elle pour voir un moucheron dans le noir ? Quel est le secret de sa vision bionique ? En 1794, le biologiste italien Spallanzani avait tenté cette pacifique expérience de crever les yeux d'une chauve-souris et de la faire voler à travers une pièce remplie de fils tendus. Résultat, un vol parfait sans même effleurer le moindre obstacle. Il y avait donc autre chose. Il a fallu attendre Donald Griffin en 1939 pour comprendre. C'est grâce à lui que les chiroptères parviennent à se repérer précisément. Le sonar, ça vous dit quelque chose ? Pour les chauves-souris, on parle plutôt d'écholocation. Elles émettent à des fréquences imperceptibles pour l'oreille humaine, les fameux ultrasons, des cris brefs qui vont se propager dans l'espace, rebondir contre les obstacles environnants et leur revenir sous forme d'écho, leur donnant ainsi des informations sur la distance à ces obstacles, leur localisation, leur forme, leur matière, etc. Et ça marche donc pour les proies. L'écho leur permet d'en connaître la taille, la vitesse, la direction. Si on n'arrive pas à entendre ces ultrasons, c'est parce qu'ils sont trop aigus pour l'oreille humaine. Pour autant, le fait que vous entendiez le cri d'une chauve-souris ne veut pas dire que vous ayez des super-pouvoirs. Une chauve-souris a deux types de cris, et lorsqu'elle communique avec ses congénères, notamment si l'une d'entre elles vient empiéter sur son territoire de chasse, elle pousse ce que les scientifiques appellent des cris sociaux, qui nous sont tout à fait audibles. Les chauves-souris chassent souvent seules, mais ne sont pas pour autant des espèces solitaires. Elles vivent en colonies, occupant ensemble des gîtes qu'elles regagnent à la fin de la nuit. Celui de notre pipistrelle se trouve probablement pas très loin d'ici, à l'intérieur d'une habitation toulousaine, dans les combles, l'isolation, entre les parpaings et les plaques de placoplâtre et autres interstices que les habitants humains ne soupçonnent même pas. La colonie qui s'y est installée peut rassembler plusieurs centaines d'individus. Au cours d'une année, au fil des évolutions météorologiques et de la présence plus ou moins importante des insectes, la pipistrelle change plusieurs fois de gîte et sa colonie de forme. Elle a néanmoins deux résidences principales, dans lesquelles son groupe va rester plusieurs semaines et revenir généralement d'année en année. Un gîte d'hibernation, entre novembre et mars, et une nurserie, entre mai et juillet. Entre ces deux moments, elle et ses acolytes ont moins de points fixes. Elles se regroupent en plus ou moins grand nombre, et à proximité de ces gîtes, semblant se préparer ou chercher d'autres possibilités d'installation au cas où les gîtes connus seraient inaccessibles. La fin de l'été et l'automne sont dédiées à la reproduction et à la préparation de l'hiver. La nuit, les chauves-souris chassent de manière intense et dévorent tous les insectes qu'elles trouvent pour doubler leur masse corporelle. Le jour, elles retrouvent leurs congénères dans les gîtes, forment des regroupements souvent peu mixtes, les mâles préférant s'installer seuls à proximité et attirer les femelles par leurs parades et leurs cris. Si l'accouplement a lieu à ce moment-là, la gestation est retardée. Les femelles ont en effet la capacité de stocker le sperme des mâles et de déclencher l'ovulation au printemps suivant, de manière à ce que les naissances aient lieu en période de profusion d'insectes. En novembre, engraissés par ces semaines de chasse vorace, notre chiroptère et sa colonie vont s'installer dans un gîte choisi avec soin pour passer l'hiver, y retrouvant parfois d'autres colonies. Bâtiments inoccupés, tunnels, combles, les choix sont divers tant que le lieu est calme, pas trop sec pour éviter que les ailes ne se dessèchent et régulier en température. Elles se blottissent les unes contre les autres, en grappe, pour mieux réguler ensemble leur chaleur corporelle. En quelques jours, elles arrêtent toute activité et entrent en hibernation. Leur cœur se met à battre à une dizaine de coups par minute, contre 6000 en période de chasse. Leur température corporelle s'ajuste à celle de l'extérieur, entre 0 et 10 degrés. Leurs fonctions vitales ralentissent. Au début du printemps, quand la température remonte, elles sortent de leur léthargie affamées et affaiblies. Il s'agit alors de reprendre rapidement des forces au cours d'intenses périodes de chasse au milieu des nuages d'insectes. En avril-mai, pour les femelles qui se sont reproduites à l'automne, c'est le moment de déclencher l'ovulation et de débuter la gestation. Les colonies de femelles commencent à prendre leur quartier d'été dans les gîtes, nurseries, choisis pour leur tranquillité et leur température optimale et la profusion de ressources alimentaires à proximité immédiate, qui peut être suffisante pour nourrir l'ensemble de la colonie et les petits. Autour de la mi-juin, les femelles mettent bas ensemble, de manière synchronisée. Les petits vivent leur premier jour accrochés à leur mère, qui les emporte quand elles volent. Ils sont ensuite laissés au gîte sous la surveillance d'adultes, le temps de la chasse. Les mères reviennent allaiter leurs petits plusieurs fois au cours de la nuit. Les pipistrelles font partie des rares mammifères dont les jeunes sont allaités exclusivement au lait maternel, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur poids adulte. Les scientifiques se sont rendus compte que les mères revenant au gîte reconnaissent leur petit à son cri, qui varie d'un jeune à un autre. Il semblerait même qu'au fil des premiers jours, les petits adaptent leur cri à celui de leur mère. Au bout de 3 semaines, ayant atteint leur taille adulte, ils tentent leur premier vol dans le gîte, puis dans les environs immédiats. Du fait de leur vie nocturne, l'étude des chauves-souris a longtemps été difficile, freinée par les contraintes techniques. et beaucoup de questions restent encore sans réponse. En 2018 a été lancé le projet de recherche international BAT1K, qui a pour ambition sur 10 ans de séquencer les génomes de 1400 espèces de chiroptères de la planète. Les potentialités de découverte sont énormes, notamment sur l'écholocation, la conservation du sperme et le décalage de la gestation, l'apprentissage vocal des petits ou encore la place des chiroptères dans l'arbre des espèces. Les incroyables capacités des chauves-souris suscitent un intérêt croissant chez les scientifiques. Les chiroptères possèdent une longévité exceptionnelle qui vient perturber la règle liant espérance de vie, taille et métabolisme. Le grand murin, par exemple, qui pèse 30 grammes et a un rythme cardiaque de 1200 battements par minute, vit en moyenne 38 ans. À titre de comparaison, la souris, qui pèse 20 grammes, vit 2 ans. Les chiroptères ne développent jamais de cancer, sont dotés d'un dispositif particulier de réparation de l'ADN et de nettoyage des cellules. Ils possèdent également un système immunitaire unique qui leur permet presque toujours de vivre avec les virus sans apparemment en être infectés, grâce à un développement génétique singulier. Mais les chiroptères sont menacés par l'activité humaine, et les 35 espèces françaises sont toutes protégées, ainsi que leur habitat qu'il est interdit de détruire. À Toulouse, seuls subsistent les chauves-souris les plus rustiques et les plus opportunistes, capables de s'adapter à l'intensification de l'urbanisation. Les autres ont disparu avec l'avancée de la ville. Notre pipistrelle est donc aujourd'hui une des dernières représentantes en ville de cette famille injustement négligée.